deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques, sûrement.
Théâtrales, peut-être.
Inclassables, parfois.
Écrit libre.
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 Vous découvrez soudain ce qui se passe derrière le rideau. Telle était la proposition faite lors d'un atelier d'écriture. Rideau de tissu, rideau symbolique, qui tire le rideau ou tente de l'ouvrir, qui regarde, qui se découvre ou se dissimule, quel être ou quelle chose apparaît ou non au grand jour, ce lever de rideau a inspiré les nouvelles que vous allez écouter. Peut-être le remarquerez-vous, cette histoire de rideau n'est pas le seul trait commun entre les textes. Comme il se fait parfois dans les ateliers d'écriture, certains mots ont été imposés. Il y en a 10. Les plus attentifs des auditeurs reconnaîtront ces mots quelquefois inhabituels, revenant d'un récit à l'autre. Mais si vous préférez écouter les nouvelles sans vous laisser distraire, vous pouvez toujours retrouver l'émission en podcast sur le site de GTFM. Et poursuivre, à tête reposée, la chasse aux mots. Don't worry, be happy. Don't worry. Le rideau se lève parfois sur une scène de théâtre, parfois sur une scène du quotidien. Où est le jeu? Où est la réalité?
Les trois coups, puis 12 coups. C'était donc une comédie qui s'annonçait. Le silence se fit dans la salle et le rideau s'écarta lentement. Le décor représentait l'intérieur bourgeois d'un salon. Sur le plateau, un homme en manteau cale à la main. Une femme, que l'on pressentait sans trop de mal sortir du lit, bâillait interminablement en tournant le dos à son partenaire. L'homme, lui, était visiblement hors de lui, monté sur pile, et chaque fois que la comédienne se rapprochait du côté court, il s'éloignait au jardin, accentuant la distance qui les séparait. Cette tension palpable s'éternisait en mimiques improbables qui dégénérèrent soudain en éclats de rire. « Tu m'en veux encore ? Gros bêta, avoue que tu m'aimes ! Georgette, tu es complètement barge, mon pauvre ami. Tu t'en rends compte ? » Ils se précipitèrent soudain l'un vers l'autre, s'embrassèrent et sortirent, l'homme prenant la femme sous sa houlette.
On pense quelquefois avoir bien soulevé le rideau. Les rêves nous quittent, le brouillard s'estompe, on y voit clair. Alors apparaît une autre zone d'ombre. Qu'y a-t-il derrière? Quand se lève l'inquiétude, il faut souvent écarter plusieurs voiles avant d'entrevoir la lumière.
Il entrebâille le rideau rouge. Il fait noir. Pourtant, il voit devant lui un océan de têtes, sans visage. Seuls des yeux se mettent à briller comme des lucioles. Elles s'agitent, virevolte, tangue, comme portée par un courant rapide. Soudain, elles disparaissent. Une énorme barge, conduite par une femme échevelée, arrive droit sur lui. Pile au moment où il s'attend à la collision, elle s'évanouit à son tour. Une musique aigrelette retentit, accompagnant une petite ballerine tournoyant sur une sphère lumineuse. Le tutu de la danseuse semble tissée avec du fil d'or et ses cheveux sombres jettent des éclairs de sang. Elle s'éloigne dans un nuage blanc. Un bruit de clochette accompagne l'arrivée d'un berger. Son troupeau est réuni sous la houlette ornée d'un long ruban bleu. Elle lui sert de canne. Il boite sans cela. Mais soudain, le rideau s'ouvre en grand et le paisible berger se transforme en une horrible sorcière aux dents pointues, aux doigts crochus. Elle va se jeter sur lui. Non ! Trop, c'est trop ! Michael laisse tomber sa lecture et regarde autour de lui. Le décor n'a pas changé. Il est bien dans le train pour la capitale. Autour de lui, ses compagnons de voyage somnolent, tapotent sur leur téléphone ou leur ordinateur, ou encore lisent comme lui jusqu'à maintenant. Il a acheté ce livre au dernier moment sur le quai de la gare pour l'occuper pendant le trajet. Il n'a fait attention ni à l'auteur, ni même au titre. Un rapide coup d'œil lui apprend tout cela. Il s'agit du Parapluie perdu d'un certain Hilton aux éditions du Nord. Incroyable ! Ce qu'il vient de lire reprend presque à l'identique les détails de ce vieux rêve de son enfance. Le rêve l'avait hanté jusqu'à son adolescence. Il se réveillait en hurlant lorsque la sorcière se précipitait sur lui exactement comme dans le livre. Alors, sa mère accourait, le rassurait, le consolait. Elle séchait ses larmes, lui apportait un verre de lait et il se rendormait. Comment ce Hilton pouvait-il savoir? Comment pouvait-il décrire aussi précisément son rêve récurrent? Seuls lui et sa mère le connaissent, il ne l'a jamais confié à personne d'autre. Alors, il réalise, c'est forcément sa mère la bavarde. Elle l'a raconté à ses copines, son coiffeur, son prof de gym, à qui encore? Depuis longtemps, il n'a plus foi en sa discrétion. Il va l'appeler et lui demander. Oh, et puis non, elle se chauffe au soleil d'Espagne, il ne va pas la déranger dans sa retraite paisible. D'ailleurs, elle ne saura plus à qui elle en a parlé. Elle ne comprendra pas qu'adulte, il se soucie encore des terreurs nocturnes de son enfance. Non, il va plutôt utiliser la demi-journée de liberté aménagée pendant sa semaine de travail à Paris. C'est décidé. Il ira à la recherche de ce parapluie perdu.
Derrière le rideau, on peut jouer à cache-cache ou s'abriter. Ils sont doux et légers, les rideaux protégeant nos paisibles cocons. Certains rideaux n'abritent pas, ils dissimulent. Murs mouvants, murs flottants, tissus baissés, prêts à s'entrouvrir. Entrevoir ce qui se passe derrière le rideau, c'est l'appel de l'interdit.
La foule continue à applaudir les artistes qui ont quitté définitivement la scène après le troisième rappel. Ma femme se tient à mes côtés, mais contrairement à moi, elle ne semble pas emballée par le spectacle que nous venons de voir. Je n'en suis guère étonné. Elle ne s'intéresse pas à grand-chose, Léa. Elle participe, oui, elle participe, mais c'est le maximum que l'on puisse en attendre. Rien ne semble la toucher. Et l'âge ne l'arrange pas. Tant pis pour elle. Car en ce qui me concerne, je suis rempli d'émotions, je suis transporté. La pièce était formidable, les comédiens fantastiques, les décors sobres, mais parfaitement adaptés à la représentation. J'applaudis encore et encore. Tant et si bien que je ne perçois pas les lumières qui baissent progressivement. Et il ne reste plus que Léa, assise et passive, et moi, debout et enchanté. Je sens alors une pression sur ma cuisse et je redescends malgré moi sur terre. C'est Léa qui me tend ma canne. Toujours pressée d'aller voir ailleurs, ma femme. J'attrape la canne avec un mouvement d'humeur et m'appuie dessus pour suivre Léa qui descend les marches, se dirigeant vers la sortie. Elle va trop vite pour que je puisse la talonner. Aucune considération pour démarche claudiquante. Quand je pense qu'autrefois elle m'appelait son grand mâle, tu parles. Ah, tu ne m'attends pas, Léa? Eh bien, tu sais quoi? Va au diable. Je vais me faire plaisir en montant sur la scène et tu m'attendras dehors, dans le froid. Sitôt dit, sitôt fait. Je gravis les trois marches latérales de la scène avec mes trois jambes et j'accède aux planches. À présent, c'est moi la star. Je vais côté cour, puis côté jardin. J'arpente, je reviens au centre et je salue. Les sièges vides, je les imagine remplis d'un public qui me voit un culte sans bornes. Ah, que c'est bon! Je perds la notion du temps et du monde qui m'entoure. En saluant encore et encore, je me retourne et aperçois la fente entre les deux rideaux. Elle laisse apparaître une lumière. Trop fort. L'appel de l'interdit me titille au plus haut point. Allez, pile ou face? Pile, j'écarte le rideau. Face, je rejoins Léa. Pile, j'écarte lentement le rideau. Je dois adapter ma vue à cette luminosité un peu vive. Par ma foi, est-ce que j'ai la berlue? Une masse sombre gît sur le sol, ensanglantée. On dirait un corps. Mais oui, c'est bien un corps. Son crâne est ouvert et ses cheveux pendent lamentablement sur son visage. Le choc, on dirait... Léa.
La mémoire est-elle ce rideau qui parfois s'entr'ouvre, parfois reste obstinément clos? Pourquoi certains mots nous échappent-ils, ou bien nous reviennent alors qu'on voudrait tant les écarter? Et qu'est-ce qui se cache derrière une phrase? Il est des mots qui vous restent et vous donnent à penser.
La vie est injuste. Nous ne sommes pas tous égaux. Ces mots, la femme qui les prononçait est passée devant moi, un téléphone probablement accroché à son oreille. Pourquoi l'ai-je entendu? Je ne saurais le dire. Pourquoi me suis-je retourné pour la voir poursuivre son chemin et disparaître derrière le rideau de la haie de buis au fond du parc? Je ne le sais pas non plus. Pourtant, sa voix, ses mots me sont entrés dans la tête comme une onde de choc et s'y répercutent en une série d'échos. Avait-elle seulement un téléphone? Je n'en suis pas certain. J'ai cru qu'elle en avait un puisqu'elle était seule et parlait à voix haute. Qui était-elle? Je ne le saurais évidemment jamais. La vie est injuste. Nous ne sommes pas tous égaux. La banalité de cette phrase s'accroche elle aussi dans mes pensées, sans raison pourtant. Pourtant, je me demande si la vie pour moi fut injuste. Si ma vie fut une injustice vis-à-vis des autres et aussi à mes propres yeux. Je reste sans réponse immédiate. Pire, je me sens tout à coup perdu dans ma réflexion, incapable de répondre à cette simple question. Est-ce que la vie fut injuste avec moi? J'ai peur que le début de réponse que je sens poindre en moi me paralyse. Si j'hésite autant, c'est que je me sens peut-être au bout d'un chemin, à la fin de quelque chose. Ou alors, je n'en suis qu'à un carrefour de cette foutue vie qui, il me faut l'admettre, me fut jusqu'à présent particulièrement favorable. Est-ce là une injustice? Si oui, me resterait-il le pire à vivre? Après tout, ce ne serait que justice, peut-être.
Et puis, il est des phrases qui s'évapore de façon très énervante.
Derrière le rideau, le soleil se couchait sur le... Le soleil se couchait sur le parc où... Le soleil se couchait sur le parc où s'allongeaient des ombres qu'aucune nuit ne viendrait jamais...
je reprends, je bafouille, j'hésite, j'enrage. Je ferme le livre, je le jette sur le divan une fois de plus. Je suspends toute action, quelques secondes. Je fonce dans la cuisine. Je m'arrête devant la bouteille de Badois. Je me sers un verre. Le corps absent, les yeux en dedans. Le soleil disparaissait, décligné derrière les ondes. Non, erreur. J'enrage des trous, un panier percé. Je retourne au salon, reprends le livre, ouvre la page, me déplace vers la fenêtre, derrière le rideau, observe l'extérieur. Dehors, le noir, l'esquisse des ombres, les sons feutrés de la rue, les secrets des courants d'air. Le soleil se couchait, la mémoire raturée, bafouée. Et là, sur le trottoir, l'effraction par les portes de la nuit, l'intrusion d'une silhouette, le personnage mystère, une dame plutôt âgée, pâle calculée, le tempo d'une canne, la même démarche fragile se fige quelques instants, un regard vers la fenêtre, le visage dans le vague, les bruits du silence, imperceptiblement la reprise du mouvement, un corps gommé par le noir. L'appel de la phrase. Le soleil se couchait sur... Mais quel con! Pourquoi vouloir retenir la dernière phrase des livres?
JTFM 91.2, les ateliers des Valounais.
Give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry.
Ceux qui habitent le texte que vous allez entendre ne se cachent pas derrière des rideaux de tissu. Comment le pourraient-ils ? Ils sont de ces petites gens sur lesquels, à l'occasion, on ouvre les yeux. Ils appartiennent à ces mondes souvent invisibles et de temps à autre livrés à la lumière, le plus souvent à l'occasion d'un drame. Alors s'entr'ouvre le rideau posé sur nos consciences.
Un socle pour poser une chaussure, celle-ci est noire, recouverte de poussière. Poussière ocre qui s'incruste partout dans les moindres recoins. Un pli de pantalon s'écrase sur la chaussure. Alors qu'il frotte avec un chiffon chaque centimètre de cuir pour lui redonner son éclat, des cendres des cigarettes tombent sur ses épaules. Il aura pour récompense une pièce jetée, aussi fine que la dernière tranche de pain qu'il a mangée. La pièce tombe et l'homme salue le gamin de deux doigts porté à sa tombe. Il reste là. Les genoux sur la terre battue attendent d'autres chaussures. Les siennes n'existent pas, le gamin s'appelle Kali. Tu tapes encore? Les coups d'hier ne t'ont pas suffi? Regarde comme il est rouge, regarde comme il est desséché à force de mal dormir, d'avoir pour assiette le caniveau. Et malgré cela, tu reviens chaque matin l'étouffé? Sale soleil! Il est encore, il lui faut frotter, lustrer, faire briller. Après, vous irez, sale panse pleine, parvenue, cancre là, ombre de crachat, oui, vous là, vous irez chercher l'ombre à la terrasse d'un café, ou prendre le frais du ventilateur dans un bureau. Vous aurez le ventre plein et l'huile devra encore traîner dans les rues. Ces rues, les belles, les insolentes, qui étalent le luxe et l'arrogance, qu'il devra quitter lorsque vos chaussures seront propres et que les flics commenceront à protéger les voleurs des gamins sans semelle. Celles où les chars squelettiques se rassemblent autour de l'absence du chair d'un coup de poule. Où sont allongés d'autres gamins, un tube de colle dans une main et une poignée de billes brisées dans l'autre. Ces ruelles où les grands frères offrent la protection en échange d'une partie du gain du matin ou contre une faveur.
Tu aimes te perdre dans la foule du souk, courir d'une allée à l'autre, t'enivrer des cris de la fièvre du commerce, des klaxons, des sirènes, des touristes à la recherche de pittoresques. Avec un peu de chance, gamin, tu seras pris en photo lorsque tu ramasseras à la sauvette un fruit près d'un étal débordant de mangue et d'orange. Et tu auras une pièce par la dame, au sourire si émerveillé du bruit et des couleurs exotiques. Le soir, ce sera un coin de la plage, en bordure de la ville, où tu retrouveras d'autres gamins autour de barques abandonnées. Vous vous oublierez autour d'un ballon lors de parties de foot sur le sable mouillé. C'est votre territoire, prêt à le défendre contre d'autres gamins, fort de votre nom, de votre détresse, pas de drapeau, mais votre fierté. Cali, tu rêves le soir blotti contre les autres pour lutter contre le froid sous une barque renversée. À travers une fente, tu devines au bout de la mer les silhouettes noires de lourds bateaux aux lumières orange et rouge clignotantes. Tu entends également plus loin des voix d'hommes et de femmes. D'autres voix d'hommes encore plus fortes, agressives. Elles couvrent des pleurs. Le matin, tu rougis, vous repartez sur la crête de vos terrances en recherche de pitance. Toi, Cali, penché sur les pieds qui se présenteront, et toi, Sim, tu iras sur la colline, tube digestif de la ville, chercher le métal ou le carton, le plastique ou le chiffon, au milieu d'autres enfants toujours plus nombreux. Il t'est arrivé, Sim, par un jour de déluge, de suivre une fissure dans la colline, de te laisser entraîner dans l'affaissement de la boue et des déchets. Enseveli, perdre la respiration et par miracle te relever. Contourner des corps, d'autres qui n'ont pas eu ta chance, que tu ne reverras plus sur la plage pour une partie de ballon. Alors, tu as brûlé un cierge et grillé une cigarette. La vibration des sirènes des bateaux ou de la religion brise régulièrement la torpeur de la ville pour une invitation au voyage. Cali et Sim s'accrochent aux rêves de pays enchantés, aux sourires espérés d'adultes généreux, sans calcul. Vous avez compris que pour rejoindre les bateaux aux lumières clignotantes, il vous faudrait de l'aide, que contre argent vous trouveriez du monde pour vous faire passer vers cet ailleurs. Nul ne sait comment vous avez fait, Kim et Sim. Mais un soir, vous avez quitté votre barque sans faire de bruit. Vous vous êtes rapproché des voix qui crient des pleurs. Vous avez vu des hommes armés face à d'autres hommes, et des femmes, des enfants et des bébés laissant tomber leurs maigres bagages. Ils sont montés dans l'embarcation serrés les uns contre les autres. Deux hommes armés sont montés également. Deux autres ont poussé l'embarcation vers les courants. Puis ils sont montés dans une vedette pour l'accompagner au large. Vous n'avez pu les suivre du regard, la nuit était très noire, zébrée d'éclairs, les vagues hautes et agressives. Vous êtes restés longtemps sans bouger, tremblant sur la plage et puis sans vous parler, Kim et Sim, vous êtes retournés sous votre barque. Sortis vos tubes de colle, vos corps d'enfants sont restés des corps d'enfants et vos rêves se sont noyés.
Et si le rideau sous lequel nous nous cachons le plus fréquemment était une mèche de cheveux ou une main? Et si la femme dont parle la nouvelle ouvrait carrément, dans un geste léger, le rideau sur un autre monde?
Le jardin jouxte la maison. C'en est le prolongement naturel. Ses occupants ne sauraient concevoir l'un indépendamment de l'autre. Sa végétation est luxuriante, presque tropicale. Une petite Amazonie nichée au milieu de la cité. D'un taillis, elle surgit et emprunte l'allée qui mène à la demeure. Elle avance, d'un pas cadencé et rigide, droite comme un i. Elle cache un bras derrière son dos. Une mèche blonde, épaisse et rebelle, lui balaie le haut du visage, s'abandonne sur ses yeux, rendant son regard trouble, mystérieux, indépendant. Sa façon à elle de dire « ni Dieu, ni maître ». posté sur le perron, il l'observe se diriger vers lui. Des gouttes de sueur perlent le long de ses tempes, le long de son cou, le long de sa colonne. La sudation tremperait ses habits s'il en portait. Il sait qu'elle va s'approcher de lui, ne lui laisser aucun échappatoire. Elle va encore lui poser des questions qu'il l'indispose, comme chaque fois qu'elle sort du jardin. C'est son lieu de méditation. Elle ressort toujours avec des interrogations embarrassantes. Et lui doit y répondre, l'apaiser, la rassurer. Elle a cette manière étrange de les formuler, en arrondissant sa bouche pulpeuse. Il semblerait qu'elle va souffler des ronds de fumée. Elle articule chaque mot, appuie chaque syllabe, comme si c'était une question de vie ou de mort. Et en même temps, elle adopte cet air revêche qui la caractérise, sa manière à elle de dire « ni Dieu, ni maître ». Il a descendu les marches. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de lui et lui fait face, entièrement nue. Bizarrement, cette fois, elle reste silencieuse. Elle le fixe intensément. Un serpent se faufile prestement entre leurs pieds et va se réfugier derrière un tas de pierres, les laissant imperturbables. Elle déplie et ramène devant elle le bras qu'elle tenait caché derrière son dos. Le tend droit devant elle, sans un mot. Elle tient un gros fruit rond dans le creux de sa main. Adam s'en saisit, croque la peau.
Vous avez écouté « Derrière le rideau », écrit par Bernard Ziller, lu par lui-même. « Le parapluie perdu », écrit par Maggie Renaudin, lu par Cécile Ardzinski. « Léa », écrit par Valérie Zimmermann, lu par Bernard Ziller. « La vie est injuste », écrit par Michel Lannes, lu par lui-même. « Derrière le rideau », écrit par Michel Frappard, lu par lui-même. Vibration, écrit par Yves Hamon, lu par lui-même. Au commencement, écrit par Patrick Letu, lu par lui-même. Cette émission a été réalisée par Sylvie Beauget. Voix Marie-Jeanne. Réalisation technique Luc Richard et Dominique Bernard.
JTFM 91.2, les ateliers des Valounets.